Alors bonjour et re-bienvenue à cette nouvelle édition du Double Dribble Podcast, encore une fois animé par Benjamin et Samuel. Cet épisode qui portera sur les NBA Awards qui auront lieu le lundi 24 juin. Donc c'est la cérémonie qui est la remise de prix pour la saison NBA qui vient de passer, donc la saison 2018-2019. Je crois que les NBA Awards seront télévisés. Donc c'est à suivre. On va parler des quelques catégories. On va y aller pour les 6 catégories principales. On va passer aussi sur les All-NBA Team, All-Defensive Team. Donc les équipes là, qui seraient les mieux constituées avec les statistiques de cette saison. Donc on va passer vite sur les All-NBA Team. Donc c'est All-NBA First Team, Second Team et Third Team. Donc pour le All-NBA First Team, les résultats sont tombés. Donc elle fait partie, elle contient Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, James Harden de Houston, Stephen Curry de Golden State, Paul George de OKC et de Nikola Jokic de Denver. Le second team contient Joel Embiid des 76ers, Kevin Durant de Golden State, Damian Lillard des Blazers, Kawhi Leonard des Raptors de Toronto et Kyrie Irving des Celtics de Boston. Et pour la All-NBA Third Team, Russell Westbrook de OKC, Blake Griffin des Pistons, LeBron James des Lakers, Rudy Gobert du Jazz et de Kemba Walker des Hornets. Donc ça c'est pour les All-NBA Team. Il y a quelques autres joueurs aussi qui ont reçu des mentions, là, mais on va juste mentionner ceux qui ont été retenus pour cette équipe-là. Après ça, on a le All-Rookie Team qui contient Luka Doncic, Trae Young, DeAndre Ayton, Jaren Jackson Jr. et de Marvin Bagley III. Et pour la dernière équipe, le All-Defensive Team, Rudy Gobert, Paul George, Giannis Antetokounmpo, Marcus Smart et Eric Bledsoe. Donc, félicitations à vous pour votre beau travail. Là, on va y aller pour les honneurs individuels. Donc, les trophées qui vont être remis. On va faire les 6 plus importants. MVP, Rookie de l'année, 6e homme, meilleur défenseur, joueur le plus amélioré et coach de l'année. Il y a quelques autres aussi de trophées qui existent, là, comme le NBA Cares Community Assist Award, donc le plus utile dans sa communauté, coéquipier de l'année, etc. Donc ceux-là, on ne les fera pas, on va vraiment s'attarder à tout ce qui est performance sur le terrain. Donc notre première catégorie, la plus nouvelle, c'est par laquelle on va débuter pour faire le plus de sens. On va commencer par Rookie. Donc 3 jeunes hommes sont en liste pour ce trophée. DeAndre Ayton, Luka Doncic et Trae Young.
Ouais, donc on va commencer par le premier choix du repêchage de l'année passée. DeAndre Ayton des Suns de Phoenix, qui est un pivot. Assez athlétique, défensif, qui a fini la saison dernière avec 16,3 points par match, 10,3 rebonds. Au niveau de ce qui est du lancer, il ne lance pas vraiment à 3 points vu que c'est un pivot, à moins que la plupart du temps les pivots ne lancent pas à 3 points. Donc au niveau du tir en général, qui était quand même à 0,585 sur 1000, qui est excellent. Et pour les lancers francs, pour un pivot à 0.746, on avait aussi quand même des bonnes statistiques au tir. DeAndre Ayton, c'est un diamant brut. Il va probablement être dominé pendant des années avec Phoenix. Vraiment, pour une première saison rookie, beaucoup de gens trouvaient que peut-être était un petit peu décevant, mais avec Phoenix, c'est assez difficile de shiner. Il n'y a pas une super structure de jeu, les coéquipiers sont pas tout le temps les meilleurs. Donc, DeAndre Ayton, honnêtement, première saison, moi je pense réussi, va être excellent avec les Suns. Je m'attends à une grosse saison de lui l'année prochaine. Va probablement tourner encore en 10 rebonds par match. Peut-être aller peut-être avec un 20 points à ce moment-là. pour la deuxième saison. Deuxième candidat, on a de Atlanta, Trae Young, le petit meneur de jeu, qui originalement, il y a eu l'échange Doncic Young.
Ouais, c'est ça. Ça a été une grosse histoire l'année dernière. Luka Doncic, Trae Young. Donc, c'était les Hawks qui avaient le choix numéro 3, avaient sélectionné Luka Doncic au repêchage. Les Mavericks avaient le choix numéro 5. Donc, les Mavericks avaient sélectionné Trae Young. Il y avait eu un échange pour envoyer les deux copains à l'équipe opposée. Et avec cet échange-là, les Hawks recevaient un pick qui était top 5 protégé, je crois. Donc, avec les résultats de la loterie de cette année, les Hawks ont réussi leur pari. Donc, ils ont deux picks dans le top 10, 8e et 10e. Moi, je vais y aller pour Luka Doncic, moi, pour commencer. Luka Doncic, donc le petit prodige européen. Beaucoup de questionnements quant à son développement, son avenir en NBA. Comme le Stephen A. Smith disait, I don't care from this boy from Europe, qui est arrivé dans la NBA dans une équipe des Mavericks en semi-reconstruction. Donc les airs Dirk Nowitzki, on savait que c'était la dernière. Ben, on savait pas officiellement, mais on se doutait bien que c'était la dernière année de Dirk Nowitzki. Donc, un nouveau prodige européen, donc Dirk également européen, arrive dans la NBA et dès ses débuts fait sensation. La planète basket en parle. Donc, pour une première saison là, pour Luka Doncic, là, jouer 72 matchs, une moyenne de 21,2 points, rebond pour 7,8, 6 passes, un pourcentage au lancer de 42,7. Aux 3 points de 32,7 et au lancer franc de 71,3. C'est sûr que c'est une rookie, donc ces statistiques-là vont monter. Les 3 points vont monter, les lancers francs vont monter également, le temps de jeu va augmenter. Ce qui est bien avec Luka Doncic, c'est qu'on lui a donné les clés du camion tout de suite, avec, c'est sûr, un Dirk comme mentor, mais on lui a dit vas-y. Vas-y, puis donne-toi à fond. Il y avait une équipe, je dirais que sur cette saison-là, il y a eu deux temps. Le premier temps, avant la date des échanges, on avait quand même une équipe des Mavericks avec un Dennis Smith Jr., un DeAndre Jordan, on avait un Harrison Barnes, on avait beaucoup plus d'armes pour entourer Luka Doncic, donc il était moins la cible numéro 1, même si c'était vraiment la rookie qui prenait le ballon le plus dans la rencontre. Mais tout de suite, Luka Doncic, là, c'était pas rare qu'on voyait des highlights de lui à chaque jour. Le nombre de crossovers, de alley-oop lancés à DeAndre Jordan, le fameux step back qu'on appelle dans la NBA, qui a réussi à maîtriser à son tout début et à le perfectionner. Puis c'est seulement sa première saison à Luka Doncic, donc ça va être super intéressant de le voir progresser à ce niveau-là. Pour la deuxième partie de la saison, on s'est départi de Dennis Smith Jr., on s'est départi de DeAndre Jordan qui ont pris la route pour New York. On a été chercher Porzingis qui n'a pas joué. Donc, il devrait être à son poste, par exemple, pour le début de la saison prochaine. Mais on lui a enlevé ces deux armes-là. On lui a enlevé Harrison Barnes, lui, qui a pris la route de Sacramento pour aller rejoindre les Kings. Donc, t'sais, tout le cheminement qu'il avait réussi à faire. Arriver à la ligne à la date des échanges. Je pense que dans ce premier temps-là, Luka Doncic était rookie de l'année incontestable. Puis après ça, il y a un jeune homme que tu vas nous parler qui a réussi à lui livrer une chaude lutte.
Ouais, exact. Donc, comme j'ai dit tantôt, Trae Young, Luka Doncic, le fameux. Ça va être prendre un perpétuel duel durant leur carrière. Là, on va toujours les comparer vu que. Ont été échangés à leur draft. Donc, Trae Young, comme on l'a dit, début de saison, il jouait très bien, mais c'est vraiment en deuxième demi de la saison qui s'est vraiment mis en marche. Puis que là, on a commencé à se dire, ah, peut-être que Trae Young a des chances de battre Luka Doncic pour la rookie de l'année. Donc, 19,1 points par match, pardon, 8,1 passes décisives par match, 3,7 rebonds, Au lancer franc, 82,9. Au 3 points, 32,4. Et au tir, 41,8. Donc, très bonne statistique en général pour Trae Young. Pas le plus grand, vraiment, il est très petit.
Beaucoup de questionnements à son avenir en NBA. On le sait, on le... Déjà, au début, on le comparait à Stephen Curry, donc énormément de pression, mais un cran plus petit. Puis Trae Young a réussi a répondu de la bouche de ses canons, comme on
Ouais,
dit.
exact, vraiment là, joueur intense, qui a pas peur du contact. Vraiment là, c'est un meneur qui va mener son équipe. Quand il va être bien entouré, là, il va mener le jeu, il distribue bien le ballon, il est capable de rentrer des 3 points au bon moment. Vraiment, Trae Young, très électrisant comme joueur également. Alors, c'est nos 3 candidats rookie de l'année. On a parlé beaucoup de Young ou Doncic. Puis Andrew Ayton est moins considéré selon les odds qu'on dit pour remporter le trophée.
Moins
Donc,
flashy aussi que
exactement.
les deux autres, là,
Mais qui
mais.
va peut-être même être plus dominant que les deux autres
Qui
dans
sait?
l'avenir, on ne
Qui
sait pas.
sait? Ton choix?
Bah, mon choix, je vais y aller avec Luka Doncic, qui était quand même un choix assez sûr.
Luka Doncic, je pense qu'il est le choix pour tout le monde. Gros shout-out à Trae Young. Le début de saison de Trae Young était un petit peu moyen, mais on l'a revu là, après le match des étoiles, là, avoir des matchs au-dessus de 30 points. Non, donc vraiment gros props à Trae Young, mais Luka Doncic, vraiment là, comme il était dans les discussions pour être All-Star déjà à sa première saison là, en tant que rookie. Donc je pense que le choix est unanime. Je pense pas vraiment ce qu'on va se tromper sur ça. Trae Young va avoir quelques votes, mais je crois que Luka Doncic devrait rafler le prix. Donc pour le deuxième, on va y aller pour défenseur de l'année. Donc, les trois garçons sont Giannis Antetokounmpo, Paul George et Rudy Gobert.
Ouais, donc je vais commencer avec Rudy Gobert du Jazz de Utah, qui est un pivot, qui est à sa 7 ou 8e saison avec Utah, toute sa carrière est là. Joueur français, qui est un excellent joueur défensif, qui est un joueur polyvalent, qui est vraiment le pivot défensif, qui garde son cercle, comme on dit. Avec il y a environ du 16 points, 12 rebonds cette saison. Vraiment, Gobert, c'est un leader silencieux. C'est un joueur qui n'a pas peur du contact, qui va vraiment défendre solide les joueurs qui vont monter à l'arceau. C'est vraiment c'est pas le joueur, c'est un des joueurs les moins flashy de la ligue, mais c'est vraiment un des joueurs les plus efficaces défensivement. C'est pas pour rien que Utah avait une des meilleures défenses de la ligue. Donc Rudy Gobert, qui a remporté le trophée l'année passée et qui est encore une fois nominé avec les deux autres camarades que nous avons. Alors moi, je vais enchaîner avec Paul George de OKC, qui jouait avant à Indiana, mais qui a été transféré à OKC et qui... Paul George est probablement un... Je vais le comparer avec un joueur que tout le monde connaît pour ceux qui le voient moins jouer. C'est un Kawhi Leonard, Paul George. Il est aussi bon offensivement, défensivement, le même genre de joueur. Ça joue la même position. Vraiment, Paul George, il est complet. Je vous dirais, c'est pas un. Ça ressemble un peu à Kawhi Leonard parce que c'est pas un gars qui est tant flashy dans ses mouvements, mais c'est des trucs efficaces qu'est-ce qu'il fait. Il est extraordinaire au tir. Il a pas peur d'y aller au contact. Il est très très intelligent dans sa lecture de jeu pour intercepter les ballons. Capable de faire des blocs à l'occasion. Mais vraiment, c'est son IQ basket qui est très très élevé qui est capable de faire des interceptions, qui est capable de bien défendre contre son joueur. Donc, lorsqu'on a une grosse équipe qui affronte OKC. On va donner un exemple. On joue contre un LeBron James ou contre un James Harden ou un Steph Curry. On sait que ça va être Paul George qui va défendre contre lui. Vraiment, Paul George est un joueur très très complet. Et pour terminer,
Oui, pour le troisième, on y va avec Giannis Antetokounmpo. Donc, qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit sur Giannis? C'est un jeune de 7 pieds. 7 pieds, 7 pieds 1 environ, là. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement grand. Donc, déjà là, c'est un atout pour lui. Extrêmement mobile et capable de défendre sur. Poste 1, ça devient un peu compliqué, mais poste 2, poste 3, poste 4, poste 5. Donc, énormément de polyvalence défensive. Niveau rebond, tu as 12,5 de moyenne cette année. On est à 1,3 steals, 1,5 blocs. C'est sûr que c'est pas, tu sais, il y a pas, il average pas comme 3 blocs et demi là, par match, ni des steals, mais c'est une menace constante en défense. C'est difficile de tirer par-dessus lui parce qu'il est très grand, des très longs bras, saute très haut également. Souvent, il va être envoyé en mission défensive contre le meilleur joueur de l'autre équipe. Et n'a pas peur du contact, de monter pour le bloc, là, si vous avez suivi la série de playoffs, là. C'est sûr que les trophées qu'on parle, là, c'est hormis les séries éliminatoires, donc ce qui est arrivé dans les séries éliminatoires, ça ne compte pas. C'est vraiment dans la saison, mais je veux juste vous parler d'une image. Dans un des matchs contre les Raptors, à un moment donné, Kawhi Leonard monte pour un dunk. Je crois réussit à passer Brook Lopez pour le compte. Mais il y a Giannis qui saute et qui va le contrer sur la planche. Alors que tout semblait être facile pour lui. Donc c'est un joueur qui n'arrête jamais. On l'a vu aussi cette année. Il y avait Jason Tatum, je pense, qui était en échappée et qui avait au moins là, 3-4 pas d'avance sur Giannis. Mais Giannis, comme une fusée, part à sprinter et va contrer Jason Tatum qui allait faire un dunk. Donc, qui pensait avoir un panier facile. C'est un joueur qui n'arrête jamais. Donc voilà, pour Giannis Antetokounmpo, là, il y a plein d'affaires à dire, mais. C'est vraiment là, sa polyvalence défensive, là, c'est pourquoi là, il se retrouve sur cette liste-là. Ta prédiction pour le trophée? Là, je pense pour moi, c'est peut-être la plus difficile. Je dirais qu'il y a peut-être un trophée qu'on va parler qui va faire en sorte, ou peut-être faire en sorte que c'est quelqu'un d'autre qui va le gagner. Ah, j'ai de la misère à voter de cap d'y aller en premier.
Je vais y aller en premier, mais oui, c'est la catégorie la plus dure, je trouve, honnêtement. Même s'il y en a un autre qu'on va parler tantôt qui est aussi dur, à mon avis. Mais moi, je trouve que vraiment c'est la plus dure. Je vais faire fi de tous les autres trophées en me disant, peu importe qu'est-ce qui arrive dans les autres trophées, je choisis un joueur, peu importe. Je vais y aller avec Rudy Gobert encore une fois. C'est vraiment. Il mène par son exemple, il est solide défensivement, fait des gros blocs, les rebonds sont là en défensive tant qu'en offensive. Vraiment, Rudy Gobert l'a gagné l'année passée, il a fait une aussi bonne saison que l'année passée au niveau défensif. Donc, je pense que les votants vont peut-être y aller avec un autre vote pour Rudy Gobert, comme si, en passant que un trophée. On va parler tantôt, va peut-être décerner un des deux autres qui vont donner à Rudy Gobert.
Je crois que je vais y aller, moi, pour Paul George. Pourquoi Paul George? Là, on tient à mentionner, là, on n'a pas encore parlé des nominés pour les candidats MVP. Et Giannis et Paul George sont en lice pour et défenseur de l'année et joueur le plus utile à son équipe. Je pense pas que Paul George va réussir à avoir MVP, mais par contre, avec la saison qu'il a, je crois qu'il mérite au moins un trophée et je crois que les gens vont peser dans ce sens-là là, pour lui remettre au moins un trophée cette année. Donc, Paul George, une excellente saison, mais les trois le méritent, là, comme dans plusieurs des trophées qu'on va nommer. Il y a plusieurs personnes qui pourraient rafler les honneurs pour un seul trophée. Troisième catégorie, joueur le plus amélioré. De'Aaron Fox des Kings de Sacramento, D'Angelo Russell des Nets et Pascal Siakam des Raptors de Toronto.
Ouais. Genre de drôle de trophée, j'ai toujours trouvé que le nom faisait un peu médaille ou hockey SO avec le joueur le plus amélioré. Mais c'est une belle catégorie qui est, faut noter, c'est pas nécessairement seulement des jeunes joueurs qui peuvent gagner ce trophée-là. Dans le passé, il y a eu des joueurs qui ont gagné ce trophée-là après avoir eu des mauvaises saisons et en étant revenus très fort. Donc, il y a, je pense que dans les candidats qui étaient pressentis dans cette catégorie-là, Derrick Rose des Timberwolves était pressenti. Après tous les pépins physiques qu'il y a eu dans les dernières années, il est revenu très très fort cette année. Était dans les... Il y a eu des discussions qu'il soit un All-Star, mais vraiment, là, a pas fait la coupure finalement. Mais on a trois très bons choix, honnêtement.
Ouais, puis sur Derrick Rose, là, il y a beaucoup de gens qui étaient déçus de un, de ne pas le voir en All-Star. Mais l'Ouest est tellement boosté en termes de talent que c'était impossible de le faire fitter. Et dans la catégorie joueur le plus amélioré de l'année, je pense qu'il aurait été un petit rôle d'imposteur parce qu'il a déjà gagné MVP, donc joueur le plus utile à son équipe, et une couple d'années après lui donner joueur le plus amélioré. Je sais pas, moi, je ne serais pas d'accord de le mettre dans le Most Improved. Par contre, comme un trophée, histoire la plus inspirante ou quelque chose comme ça, là, je le verrais en tête de liste, mais joueur le plus amélioré. On le voit vraiment là sur une saison précédente et sur cette saison qui a fait le plus grand bout de chemin.
Là. Ouais, donc pour. On va commencer avec De'Aaron Fox des Kings de Sacramento, qui, pour la comparaison d'année en année, l'année passée, c'est vraiment au niveau du tir qui s'est amélioré, si je peux choisir une catégorie. L'année passée, il y avait une moyenne de 41,2 au tir. Passé à 45,4. C'est surtout au lancer à 3 points qui s'est vraiment drastiquement amélioré avec un 36,9 qui est passé à un 49,3 à 3 points. Donc De'Aaron Fox, qui est le meneur de jeu des Kings de Sacramento, qui s'est vraiment très très amélioré au niveau de cette facette du jeu. Les Kings qui ont été dans. Au début de l'année, étaient probablement pronostiquer une des pires équipes de l'Ouest, n'allait pas faire les séries. Et les Kings ont fait mentir tout le monde en étant l'équipe la plus, je vous dirais, l'équipe la plus le fun à regarder, honnêtement. Si vous avez regardé une coupe de matchs des Kings, je sais que c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de matchs difficiles à la télé, ça joue tard, mais vraiment, c'était probablement l'équipe la plus fun à regarder.
Jeu rapide, jeu inspiré. Pas vraiment d'iso, mais on joue rapidement, on veut marquer le plus rapidement possible, puis ouais, c'est ça. De'Aaron Fox, le joueur, moi c'est possiblement un de mes point guard préférés. Niveau style, niveau rapidité, vision de jeu, je pense que c'était versus l'année dernière, peut-être qu'on avait de la misère à lui faire confiance, mais a fait ses preuves à la fin de la saison dernière, et là arrive cette année, là il est rendu avec son propre soulier. Donc là, commence à s'imposer en tant que vedette, là, en tant que future vedette de la NBA. Donc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur De'Aaron.
Non, c'est pas mal ça. Ouais. Je savais que tu allais en parler un peu plus vu que les Kings, c'est ton équipe.
J'ai un petit sentiment d'appartenance pour les Kings. Puis De'Aaron Fox, là, c'est possiblement mon point guard préféré. Là. Puis sinon, si on veut passer sur un autre point guard, D'Angelo Russell, veux-tu en parler?
Ouais. Donc, D'Angelo Russell des Nets de Brooklyn, ancien deuxième choix total des Lakers de Los Angeles, qui a été échangé des Lakers aux Nets, qui est arrivé. Donc, l'année passée, D'Angelo Russell, avec un 14,6 points par match, a eu une transition à 21 points par match, est passé de 4,3 passes par match à 7 passes par match. A ramené les Nets de Brooklyn en série. Vraiment, là, c'est les Nets avaient vraiment une belle équipe qui était vraiment bâtie autour de D'Angelo Russell pour pouvoir remporter des victoires. D'Angelo Russell qui a vraiment démontré que c'est un All-Star en l'étant cette année. Les Nets ont réussi un match record contre les Kings de Sacramento. Il y avait un match où ça perdait par au moins 30 points. Les Nets sont revenus dans le match et pour finalement remporter. Donc, D'Angelo Russell, qui est vraiment là, la star des Nets de Brooklyn, là, qui a mené l'équipe en série par son exemple, par son jeu inspiré, et qui, moi, je le souhaite très fortement, va continuer à le faire l'année prochaine.
Retourne avec l'équipe, là, il y a des pourparlers de Kyrie Irving avec les Nets, et là, prendrait le poste de D'Angelo Russell, donc je trouverais ça plate, comme tu dis, là, qu'il fasse tout cet effort-là, puis finalement, ça ne soit pas récompensé avec un gros contrat avec la franchise qui a amené à être au prochain niveau. Et le dernier, Pascal Siakam, des Raptors de Toronto. Donc, Pascal Siakam, c'est un autre scénario. Tu sais, comme D'Angelo Russell, puis même De'Aaron Fox, quand on est allé les chercher, je pense que D'Angelo Russell, c'est un premier ou un deuxième choix de repêchage. De'Aaron Fox est dans le top 10, si je me trompe pas. Pascal Siakam est dans 20 et plus, je pense que c'est 24 ou de 24 à 26, là, je me souviens pas bien. Donc on allait chercher un joueur comme ça. On avait deux choix de repêchage chez les Raptors à cette année-là. On avait été chercher Jakob Poeltl et Pascal Siakam, donc qui étaient deux joueurs de banc pour l'effectif des Raptors. On avait échangé Jakob Poeltl et DeMar DeRozan pour aller faire l'acquisition de Kawhi Leonard et de Danny Green. Et là, Nick Nurse arrive avec les Raptors au début de la saison. On a en poste du Ibaka et du Valanciunas. Et on décide de faire la modification, de mettre Valanciunas sur le banc et de mettre Siakam en starter. Donc, déplacer Ibaka en 5 et mettre Siakam sur le terrain. Et là, c'est l'éclosion de Pascal Siakam. Donc, Siakam qui avait averagé pour son avant de... Pas la saison qui vient de passer, mais l'autre d'avant, 7,3 points. Et là, qui passe à 16,9 points. Donc, il est tout simplement folle. Après ça, dans les minutes jouées, on était sur du 20,7. Et là, on passe à du 31,9. Le nombre de tirs par match a doublé aussi. Là, on était à 3,1. On passe de 6 à 6,5. Le nombre de tirs aussi, là, ça se rapproche de 12. Et on était à 6. Les field goals, ça a augmenté un petit peu, mais rien de trop affolant. Là, on passe à 1,3 points par match au lieu de 0,5. Donc là, on dirait que toutes les stats de Pascal Siakam, là, on prend en aimer d'autres, là, mais tout a doublé. Donc, sa responsabilité a augmenté sans être aussi un joueur de concession. Là, on n'est pas comme un Kawhi Leonard, par exemple. Là. On n'est pas, mettons, le top dog de notre équipe versus un D'Angelo Russell ou un De'Aaron Fox. Mais la progression de Pascal Siakam est totalement folle. C'est sûr que s'il avait été dans une équipe où il avait été la première arme, est-ce que les stats auraient été différentes? Peut-être. Par contre, il faut lui lever notre chapeau à tout le travail qu'il a fait. Là, à réussir à doubler toutes ces catégories, là, ça commence à être sérieux. Pronostic pour le prix du joueur le plus amélioré?
Je suis obligé d'y aller avec Spicy P.
Spicy P, Pascal Siakam, qui devrait remporter là, pour plusieurs. Là, je pense que ça va être, la chaude lutte est entre lui et Russell. De'Aaron Fox avait déjà connu une bonne première saison. On a eu une très bonne après, mais la différence entre ces deux saisons-là n'est pas aussi importante que les deux autres. Ce qui peut jouer, je pense, dans le cas de D'Angelo Russell, c'est le fait qu'il soit All-Star pour la première fois cette année. Pascal Siakam aurait pu l'être. Mais là, c'est avec la blessure de Oladipo, ça a ouvert un spot. Et c'est D'Angelo Russell qui a rempli ce poste-là. Donc ça peut jouer en faveur de D'Angelo Russell. Mais par contre, là, d'après moi, Pascal Siakam devrait remporter. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'unanime, mais devrait remporter le prix du joueur le plus amélioré. Prochaine catégorie, entraîneur-chef de l'année. Et nos clients sont Mike Budenholzer des Bucks de Milwaukee, Michael Malone des Nuggets de Denver et Doc Rivers des Clippers de Los Angeles.
Ouais, eh bien, on va commencer avec le coach qui a mené la meilleure équipe de la ligue, Mike Budenholzer. Les Bucks qui ont passé d'une équipe qui était 7 ou 8e, si je ne me trompe pas, l'année passée. Je crois que c'était 7e parce que les Raptors étaient premiers et ont joué contre les Wizards. Donc, les Bucks devaient être 7e environ. Donc, les Bucks ont passé d'une équipe qui était 7e à, avec menée par le fameux Jason Kidd, qui a passé de 7 à premier, meilleur bilan de la ligue. Équipe numéro 1, incontestable, qui n'a jamais été inquiétée au premier rang. Un petit peu par les Raptors, qui l'ont été un petit peu. Mais vraiment, là, les Bucks, ça a été un rouleau compresseur toute l'année. On avait tellement une équipe dominante que Giannis Antetokounmpo avait des moyennes de 30 minutes par match. Là. C'était pas, on n'avait pas besoin de le faire jouer plus que ça, tellement notre équipe était dominante.
C'est rare. C'est quasiment rare des fois que Giannis jouait du quatrième quart ou embarquait pour les deux premières minutes et s'assoyait parce que les dommages avaient déjà été faits. T'sais, c'est la seule équipe, comme tu as dit, là, qui a fini septième avec une fiche de 44 victoires et 38 défaites et qui pour l'année suivante, sont en 60 et 22, donc la seule équipe de la NBA cette année à avoir 60 victoires. Pour Mike, ça a été, oui, le travail qu'il a effectué aux côtés d'Yanis. Donc, lui donner les clés du camion et lui dire, regarde, c'est toi la star de cette équipe-là. Moi, je vais t'entourer, je vais faire des systèmes de jeu qui vont t'entourer. Mais c'est toi qui commandes cette équipe-là. Ça, c'est de un. De deux, c'est le travail qu'il réussit à faire sur Brook Lopez. Donc, Brook Lopez, qui était reconnu comme un joueur numéro 5, dans le poste, souvent dos au panier, se retourne et petit lancer ou joue très près du panier. Et là, il a dit à Monsieur Lopez, tu vas te mettre plus loin, tu vas t'écarter du cercle. Tu vas apprendre à tirer à 3 points. Ça, ce que ça fait, c'est que ça ouvre énormément d'espace pour Giannis pour la pénétration. Et si s'il y a besoin de dunker, il va avoir tout l'espace puis il ne sera pas défendu par un autre joueur. Et si jamais l'autre joueur décide de venir en aide, ben, il va te donner le ballon dans le coin. Tu tires et tu punis ton défenseur. Donc, Mike Budenholzer a pris une équipe qui était average, mais avec énormément de potentiel et a réussi à la porter à son plein potentiel ou du moins à la faire progresser là, énormément.
Ouais, vraiment. Ce qu'il a fait avec Brook Lopez, c'était vraiment impressionnant. Là, Lopez, qui était une arme là, tellement dangereuse à 3 points, puis qui était un contreur exemplaire cette saison. Qui était quand même reconnu pour ça, mais vraiment cette année, là, c'était comme s'il était envoûté, honnêtement. Les 3 points, c'était incroyable, puis les comptes. Donc, il y avait vraiment toute une combinaison là, vraiment, vraiment dangereuse pour Brook Lopez, qui a fait que toute l'équipe était avantagée par le style de jeu qu'on a décidé d'emprunter de son côté. Et ouais, Mike Budenholzer, tout le monde avait un rôle, il a vraiment reviré de bord tout au complet, honnêtement. Là, c'était vraiment. Ça a vraiment été toute une saison des Bucks.
Ouais, qui amenait Brook Lopez, là, on dit souvent là, des joueurs, là, on dit du 3-and-D. Donc, qui rentre des 3 points et qui joue dur en défense. Tu vois normalement ça là, avec des joueurs en 2, en 3, en 4, mais là, tu es capable de faire ça avec ton 5. Donc, ça devient extrêmement sérieux là, pour. Ça devenait quasi indéfendable pour les Bucks là, quand comment tout le monde sur le terrain réussit à bien défendre puis à rentrer ses paniers. Prochain, Mike Malone ou Doc Rivers?
Alors, on va y aller avec Mike Malone qui a mené les Nuggets de Denver à une surprenante saison. Les Nuggets qui l'année passée n'ont pas fait les séries. Je pense que dernier match,
il fallait que les Wolves devaient perdre et ont gagné. Donc, ça fait en sorte qu'ils ont chuté au 9e rang à la toute dernière seconde.
Ouais, donc les Nuggets qui ont été très longtemps premiers de la conférence Ouest, qui surprenaient tout le monde. On était devant les puissants Warriors, devant les Rockets de James Harden, le Thunder d'OKC. Vraiment, là, on est l'Ouest devant des machines de basket. Et les Nuggets qui avaient un des très beaux styles de jeu. On parlait tantôt des Kings, là, mais les Nuggets, là, c'était quelque chose à regarder aussi, là, un style collectif. Tout le monde touche au ballon, on n'a pas de joueurs individualistes. Nikola Jokic qui a mené cette équipe-là de main de maître, vraiment, là. Une grosse saison de Jokic qui, honnêtement, était dans la conversation large pour le MVP de l'année. Mike Malone qui a vraiment là, soutiré le meilleur de tous ses joueurs. Bien entendu, Nikola Jokic, comme on parlait. Le jeune Jamal Murray en point guard qui a vraiment été excellent. On a senti que son développement s'améliorait vraiment de match en match. Et ça s'est continué même dans les séries éliminatoires.
Ouais. Donc Mike Malone qui était extrêmement je pense que ce qui découlait de cette saison-là, c'est la confiance qu'il avait avec ses joueurs. Tout le monde contribue. C'est pas un seul joueur qui va aider à l'équipe. Il faut que tout le monde contribue. Oui, on a un Nikola Jokic qui est extrêmement présent, le nombre de triple-doubles qu'il fait, mais tes triple-doubles, il faut que tu en fasses des passes. Puis si tes coéquipiers sont pas capables de rentrer des points, ben t'en auras pas. Donc tout le monde met la main à la pâte. Jamal Murray dans une éclosion, là on le voit de plus en plus s'afficher comme un des meneurs de la relève, donc possiblement le meilleur meneur canadien là, en ce moment. Tout le travail de Mike Malone a porté fruit après la saison décevante d'année dernière. Arrive cette saison, on est premier pendant une bonne partie de la saison. Finalement, là, les Warriors reprennent l'avance, mais c'est jamais extrêmement. Ils se détachent jamais vraiment beaucoup, là. Ça reste toujours à 3 matchs maximum. C'est toujours très très proche là, des Warriors de Golden State. Mais gros travail de Mike Malone pour sa saison là, de cette année. Et le dernier, Doc Rivers. Donc un vieux de la vieille. Doc Rivers. Comment on peut commencer ça sur Doc Rivers? Donc juste pour commencer. 42 et 40 la saison dernière, donc 10e dans l'Ouest, n'ont pas fait les séries. Cette année, on fait 48 victoires et 34 défaites, qui sont finalement se sont fait vaincre au premier tour éliminatoire par les Warriors de Golden State, là, 4 à 2. Pour les Clippers et Doc Rivers, c'est que on avait un certain. On avait une équipe qui s'appelait Lob City. Il n'y a pas si longtemps, donc, qui était constitué de Blake Griffin, Chris Paul et DeAndre Jordan. Donc, vous en avez sûrement vu là, souvent. Des alley-oops dans tous les sens, c'était quasi indéfendable. Et là, en un an et demi, on perd Blake Griffin dans un échange de l'année dernière. On perd Chris Paul. Qui va rejoindre les Rockets de Houston et DeAndre Jordan qui décide de signer avec les Mavericks cette année. Donc, on n'a plus ces trois joueurs-là là, qu'on a eu pendant longtemps. On a un coach en Doc Rivers qui fait énormément confiance à ses joueurs. On a du Dario Gallinari, on a du Pat Beverley, on a du Montrezl, du Lou Williams. Plus tard dans la saison, là, bon, on avait Tobias Harris qu'on a échangé aussi. Donc, on échange le meilleur joueur de l'équipe à la date limite des transactions pour Landry Shamet et des poussières. Mais on se départit, c'est ça le point, là. On se départit de notre meilleur joueur de l'équipe qui aurait pu être All-Star. Et l'équipe continue à gagner. Le moral est bon et on réussit. À se mettre en à réussir en playoff. Donc, ça, c'est la grosse victoire pour les Clippers. Les Clippers, eux, qu'ils avaient communiqué, ils misent tout pour la free agency de cet été. Donc, avoir réussi en plus d'avoir 2 matchs éliminatoires, être la seule équipe de Los Angeles à aller en playoff, c'est vraiment tout un accomplissement là, pour Doc Rivers et sa bande.
Ouais, vraiment, là, les Clippers avaient vraiment une belle équipe. Il n'y avait pas de star là-dedans. On a un joueur qui sort du banc, Lou Williams, qui est extraordinaire, comme tu l'as dit. Pat Beverley, qui est un petit bulldog, là, qui défend dur, là, qui est vraiment un technicien offensivement. Montrezl Harrell, qui est là. Là, tu l'avais dit, il avait gagné Gallinari, qui était là. Et on a Tobias Harris, qu'on a échangé en cours de saison. Quand on a eu l'échange de Tobias Harris, beaucoup de gens qui pensaient que les Clippers essayaient de tanker pour aller chercher un choix de repêchage, mais ils ont pas juste, ils ont fait d'autres échanges aussi. Mais vraiment, là, ça les a pas arrêtés. Ils ont même continué. Ils ont même été meilleurs encore une fois. Puis ça s'est battu jusqu'à la fin parce que les places 6 à 8, là, ça s'était interchangé de match de jour en jour à la fin de la saison. Et finalement, ils ont terminé 8e. C'était pas le pire match-up qu'il y avait pour eux là, de jouer contre les Warriors, mais ils sont vraiment bien défendus. Ils ont fait douter un petit peu les Warriors. On a eu un début de série là, extraordinaire pour eux. Finalement, les Warriors ont montré pourquoi c'était des champions. Et comme tu le dis, ben, grosse saison, on fait les playoffs, puis on se prépare pour cet été pour attirer n'importe quel autre agent libre, sauf que Kawhi Leonard, bien sûr,
S'il
là.
vous plaît, s'il vous plaît, les Clippers. Dans la série de playoffs aussi, qu'est-ce qui était impressionnant, je pense, à un moment donné, je me souviens pas si c'était le match numéro 3, si je dis pas de conneries, mais il y avait l'équipe des Clippers qui tirait de l'arrière par 31 points dans la rencontre et qui a réussi à revenir de l'arrière. Donc, c'est le plus grand retour dans un match des séries éliminatoires, là, 31 points de retard, là, ça commence à faire beaucoup. Donc là, il y en a beaucoup qui se marraient aux dépens des Warriors, là, 3-31, 3-1, 3-1 comeback. Le fameux meme là, contre les Cavaliers qui s'est fait revenir de l'arrière 3-1 dans la série. On dirait que Doc Rivers a réappris à coacher avec un nouvel effectif, puis à faire en sorte que son équipe devienne encore meilleure. Et la force de caractère de ses joueurs était vraiment, vraiment impressionnante. Donc, je ne sais pas si c'est juste parce que ses joueurs sont extrêmement durs, mais si c'est vraiment Doc Rivers qui a amené cette mentalité-là, ça, on ne le sait pas. Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux, mais vraiment, très bon travail de la part de Doc Rivers là, pour cette saison. Pronostic?
Personnellement, j'aimerais bien que Doc Rivers l'emporte, mais c'est lui qui a l'affiche la moins alléchante au niveau de la différence d'une année à l'autre. Donc, je suis obligé de donner à Mike Budenholzer des Bucks, honnêtement.
Pareil pour moi.
Le revirement de situation au niveau de l'affiche de l'équipe, mais c'est surtout ce qu'il a fait. Honnêtement, à Brook Lopez, là, c'est quelque chose, là. Donc, je suis obligé de donner à Mike Budenholzer des Bucks.
Ouais, exactement. Moi aussi. Donc, faire en sorte que ton équipe devienne la meilleure équipe de l'Est. Là où c'est sûr que tu es capable d'amener ton équipe là, en finale de l'Est. On dit que les playoffs ne comptent pas là, dans le trophée. Par contre, là, c'est quand même une belle mention là, pour lui, donc à sa première année avec son équipe. S'il est capable d'avoir un même effectif l'année prochaine, puis d'être capable d'amener son équipe encore plus loin, là, ça va être tout à son honneur. Mais oui, d'après moi, là, je pense pas qu'il devrait avoir de surprise, même si l'an dernier, beaucoup donnaient le trophée à Brad Stevens contre Dwayne Casey pour le trophée. Mais normalement, là, si tout est dans l'ordre, là, ça devrait revenir à Mike Budenholzer. Avant-dernière catégorie, sixième homme de l'année, avec nos trois finalistes qui sont Montrezl Harrell des Clippers de Los Angeles, Domantas Sabonis des Pacers de l'Indiana, Lou Williams des Clippers également, donc vous m'avez bien entendu, deux joueurs des Clippers qui sont tous deux sixième homme. On peut comprendre pourquoi par rapport à leur rapport du banc, mais il y en a beaucoup qui trouvent ça bizarre que six men. Il y a deux six men de la même équipe. Donc, Montrezl Harrell, pour moi, je vais commencer sur son cas. Pour ceux qui connaissent Pascal Siakam, c'est un joueur un peu qui est similaire à Pascal Siakam. Donc, c'est un joueur qui n'abandonne pas. Il va toujours se battre pour ses points, pour ses rebonds. Il ne va jamais abandonner. Donc, il y a un peu la mentalité d'un Pat Beverley avec un peu les talents de Pascal Siakam là, sans l'aspect blabla là, de Pat Beverley là, il est plus concentré, il est plus locked in dans son match. Donc, a joué tous les matchs l'année, donc on a joué 82. Une moyenne de 16,6 points par match, 6,5 rebonds et 2,6 passes. Moyenne au tir là, de 61,5. Le 3 points, c'est un peu plus laborieux, là, c'est 17,6. Et des lancers francs de 64,3. C'est complémentarité à toute l'équipe des Clippers. Donc, c'est une équipe qui se bat beaucoup. Il me fait penser un peu à Sabonis. Là. Les deux évoluent sur les mêmes postes. Là. Le poste 4, poste 5. C'est deux gars qui se battent au rebond. C'est deux gars qui vont provoquer des lancers. C'est des gars qui vont toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, officiellement, quand tu as un joueur comme ça là, sur le terrain, là, ça, c'est extrêmement motivant pour tes starters et pour tes autres qui sont sur le banc. Lou Williams, donc gagnant de l'année dernière. Aussi de très bonnes stats.
Oui, vraiment. Lou Williams aussi, qui l'a déjà gagné il y a dans le passé quand il jouait avec les Raptors. Donc, je pense qu'il est à deux trophées déjà. Ouais, on l'a dit au niveau des stats, là, le gars fait 20 points du banc, 5,4 passes, 3 rebonds, 87,6 au lancer franc, 36,1 au 3 points et 42,5 au lancer. Donc, Lou Williams, qui est considéré comme un sixième homme, mais qui joue probablement le plus de minutes pour un sixième homme de la ligue.
C'est un starter déguisé.
Oui, exactement. Lou Williams, qui est un joueur extraordinaire, qui a su se réinventer avec les années d'équipe en équipe. Toutes les équipes aimeraient avoir Lou Williams comme sixième homme, si on peut le dire comme ça. Il a été l'année passée avec des statistiques assez similaires. Je pense que même qu'il avait fait 22 points par match. Cette année, c'est dans la continuation avec les Clippers. Donc, tu as un candidat très solide et très sérieux dans cette catégorie-là. Pour terminer, Sabonis des Pacers, 14,1 points, 9,3 rebonds, 2,9 passes. Il est à 71,5 au lancer franc, 52,9 aux 3 points, 59% au lancer. Donc, Sabonis, qui est un tireur émérite pour sa position, tu l'as mentionné tantôt, qui est un poste 4, qui peut jouer en 5. Sabonis, qui est le joueur, le underdog de cette catégorie-là, pas beaucoup de gens qui le connaissent. C'est sûr que les deux joueurs des Clippers sont plus connus vu que c'est Los Angeles, surtout Lou Williams, qui est une vedette dans la ligue là, quasiment. Là. Donc, Sabonis, qui est un joueur tellement intelligent sur le terrain, qui travaille, il n'a pas peur d'y aller au contact, selon sa position, vraiment, là, qui est vraiment un très bon tireur, honnêtement. Là, c'est rare qu'un joueur de sa position peut tirer aussi bien que lui. Avec les statistiques qu'il a montrées cette saison, c'est peut-être lui qui a le moins de points par match, mais avec les statistiques qu'il donne au tir, moi, je trouve que c'est un des candidats...
Il y a beaucoup sa place là, ouais, dans cette équipe-là. Ça me fait penser à l'année dernière. Les candidats, je me souviens bien, c'était Lou Williams qui avait bien remporté. Il y avait Eric Gordon. Puis le troisième, c'était Fred VanVleet qui était là. Fred VanVleet qui méritait sa place. Par contre, quand tu voyais des stats des deux autres garçons, les gens se demandaient, ben, il n'y a pas l'air vraiment de fitter. Mais oui, son apport, il y a plus que la production statistique. Il y a l'apport qu'on met sur le terrain. Sabonis, là, on arrive... sur le terrain, puis ça devient un second souffle pour l'équipe. Donc, voilà. Pronostic sur sixième homme, sans aucun doute, je crois. Donc, ça devrait revenir à Lou Williams des Clippers.
Ouais, Lou Williams va gagner le titre, même si, personnellement, j'aimerais bien voir un Sabonis remporter le titre. C'est sûr que deux joueurs des Clippers qui sont dans le sixième homme, c'est un petit peu aberrant, mais ça joue ça a des minutes de sixième homme, donc c'est sûr que ça peut être considéré les deux des sixième hommes. Mais comme on l'a dit, Louis Williams, qui devrait être le récipiendaire du sixième homme de l'année. Donc, on va enchaîner avec la prochaine et dernière catégorie, qui est le MVP de l'année, le Most Valuable Player de son équipe, joueur le plus utile, qui a été remporté l'année dernière par le numéro 13 des Rockets de Houston, James Harden, et qui est encore une fois en nomination cette année. Il est entouré de deux joueurs extraordinaires également. On a Paul George, qu'on a mentionné tout à l'heure, avec le Thunder d'OKC, et Giannis Antetokounmpo, des Bucks de Milwaukee.
Exact. Donc, on a parlé un peu de Paul George et de Giannis au niveau défensif. Mais là, on va vanter un peu leur mérite offensif. Donc, on va commencer par Giannis. Donc, éclosion, la vraie éclosion là, qu'on attendait de Giannis. Le Giannis, que j'ai dit 7 pieds, 7 pieds 1, là, il est listé à 6 pieds 11, mais d'après moi, là, il a peut-être pris une coupe de centimètres là, depuis. Donc, on va dire 7 pieds. Jouer 72 matchs, là, je pense qu'on a eu quelques pépins le niveau santé pour Monsieur Antetokounmpo. Donc, 27 points par match, 12,5 rebonds, et 5,9, là, on peut dire, 6 passes. Moyenne au lancer de 57,8. Les 3 points qui sont peut-être sa faiblesse, donc à 25,6. Et les lancers francs à 72,9. Donc, Giannis, excellente stats. Peut-être ce qui va jouer à sa faveur, c'est qu'il a peut-être moins de temps de jeu que les deux autres. Donc, passe moins de temps sur le terrain et a des stats impressionnantes. On parle de James Harden, là, on va en parler plus tard, mais qui était vraiment laissé à lui-même pendant une certaine partie de la saison. Beaucoup de blessures et que l'attaque passait par lui. Giannis fait tellement de dégâts à sa présence offensivement et défensivement, que ne joue quasiment pas le quatrième quart, donc se repose durant le dernier et arrive quand même à avoir des stats là, de la sorte. C'est quand même tout à son honneur, mais c'est éclosion. Le ballon passe quasi toujours par Giannis. Si il réussit à développer un tir à 3 points, là, même si c'est un petit peu au-dessus de 32%, le 33%, ça va être une menace. Puis les gens vont commencer à le prendre encore plus au sérieux. Parce que là, avec Giannis, c'est à 3 points, il fait pas vraiment de dommages. Donc on va le laisser tirer. Dès qu'il commence à être en course vers le panier, puis il commence ses premiers pas, là, ça devient plus difficile. Puis souvent, tellement grand, s'il rate son tir, prend ce rebond automatiquement, il le met dedans, provoque la faute, etc. Donc pour Giannis, c'est première mention comme candidat MVP. Je pense que les deux autres ont déjà été mentionnés là, pour le candidat MVP. Mais on va passer pas au tenant du titre, mais à Paul George, qui on a appris là, pour sa série de playoffs, qui jouait avec quasiment les épaules en ruine, mais qui était là pour son équipe, donc ça montre sa force de caractère. Donc PG-13, qui cette année, 77 matchs avec 28 points par match, 8,2 rebonds, 4,1 passes, field goal en deçà de 50%, donc 43,8, à 3 points, on est à 38,6, et au free throw, on est à 83,9. C'est peut-être lui que j'ai moins regardé des trois. On a souvent regardé des matchs des Rockets ensemble. Les Bucks étant dans l'Est, on les a vus un petit peu plus. Mais quand il y a un match de OKC, c'est toujours impressionnant. Peut-être pour lui, la seule faiblesse, c'est qu'il joue avec Russell Westbrook. Donc les deux doivent se partager un petit peu le ballon. C'est comme un Kevin Durant et un Stephen Curry, c'est deux énormes joueurs, mais quand tes ballons sont divisés, ça devient un peu plus difficile d'avoir des stats assez hautes. Par contre, le pourquoi Paul George est dans la catégorie, là, parce que on aurait pu voir un Jokic, on aurait pu voir là, Anthony Davis avant qu'il se blesse, puis qu'il y ait toute cette saga-là, un Joel Embiid, on aurait pu les voir. Mais Paul George, c'est vraiment le côté, là, même un Kawhi Leonard, on aurait pu le voir s'il n'avait pas manqué autant de matchs. Mais c'est le côté offensif et le côté défensif là, de ce joueur-là. C'est complètement fou. Là. Il est capable d'être impactant en défense et en attaque. S'il y a une journée qui est en attaque, qui est un peu plus lent, va distribuer le ballon et va se mettre une mission que c'est sa défense qui va faire parler là, pour ce match-là.
Ouais, c'est ça, comme tu disais, la défense, il y a quand même 2,2 interceptions par match. Il est tellement complet défensivement et offensivement. Le joueur, c'est ça, des trois qu'on a suivi le moins, qui est le moins médiatisé, vu que il y a beaucoup d'emphase sur Russell Westbrook, qui est un joueur beaucoup plus vocal, exubérant. Donc, il y a beaucoup d'attention dirigée vers lui. Lui fait son travail, c'est pas un gars qui est vocal, c'est pas non plus le gars le plus spectaculaire aussi là, capable de dunker en masse, mais tu sais c'est pas un Giannis là qui va être tellement dominant avec son physique qu'on va voir des highlights de lui, ou un James Harden là qui va être une machine à 3 points avec des step back et des crossovers. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être un moins de il y a moins de reconnaissance au niveau de Paul George. Parlant de James Harden, le tenant du titre, comme on l'a dit au départ, les statistiques, préparez-vous, 36,1 points par match, 5 rebonds, 6 passes, 1,5 interceptions par match, il est à 85% au lancer franc, 36% à 3 points et 44% au tir. C'est sûr qu'on a des statistiques un petit peu basses au niveau du 3 points du lancer pour James Harden, mais il prend tellement de tirs dans un match, a tellement eu le ballon souvent dans cette saison qu'il a dû il a dû sortir les Rockets du trou après un début de saison complètement laborieux avec une mésentente de l'équipe, avec un Carmelo Anthony qui foutu un peu la merde en arrivant avec les Rockets. Chris Paul qui est blessé. Vraiment, là, James Harden, à partir du mois de décembre, a complètement dominé la ligue. On a eu une séquence de combien de matchs de suite avec au moins 30 points? Je pense que c'est
30.
au moins 30 matchs avec au moins 30 points. Il y a eu des. Tu sais, on était souvent ensemble et on regardait les Raptors jouer. Puis. Alors, à chaque fois qu'on avait il y avait un match de Houston en même temps, on regardait les statistiques de Harden pendant cette séquence-là. On se disait toujours, OK, ah, là, aujourd'hui, il va faire 35.
32 pour la
32 de
séquence
suite.
de James Harden.
On se disait toujours, ah, il va faire 32 aujourd'hui, là. Il sera pas capable de faire autant de points qu'il fait d'habitude. Puis il droppait des 50, des 40, même eu un 60 points, je pense, une fois.
Ouais, il y a 60 points. Le nombre de fois qu'on disait en blague, c'est quoi la ligne de stats de James Harden? Puis c'était des trucs ridicules comme du 30, tu sais, du 34, 11, 9, ou ça pouvait être du 52, 6, 4. Puis le plus fou avec James Harden, c'est que tu pouvais le voir à la demi. Il était à 11, 12 points. Puis il finissait le match, il était à 35. Fait que même s'il commençait mal. C'est peut-être son défaut, là, son côté un peu croqueur, lance beaucoup d'isolation. Le système de jeu des Rockets passait que par lui quasiment. Donc, était vraiment la première arme pour les Rockets. Donc, tous les ballons, tous les tirs étaient quasiment sur James Harden. Puis après ça devenait tellement qu'il était fort pendant cette période-là. Comment défendre James Harden devenait vraiment une grosse question là, pour les équipes adverses. On a vu là, en première série contre le Jazz, là, qui était une défense assez cocasse du Jazz de Utah, là, qui défendait carrément le dos à James Harden et donc lui laissait l'aller libre juste pour être sûr qu'il ne fasse pas un step back pour un 3 points. Là. Donc c'est assez cocasse de regarder ça en image. Mais c'est ça avec James Harden, c'est que s'il te bat avec son premier pas, puis là, il arrive en 2 contre 1 contre le défenseur. Si le défenseur il vient trop tard, il va dunker dessus. Si le défenseur vient trop tôt, mais c'est un alley-oop pour Clint Capella ou pour un autre joueur. Puis après ça, là, c'est son fameux step back à 3 points, là. C'est rendu tellement maîtrisé. C'est rendu comme. Quand la machine est bien huilée, là, ça devient extrêmement difficile de le défendre. Il y a quelques langues sales qui vont dire que il provoquait énormément de lancers, trop de lancers francs, mais quand tu es un jeune homme créatif puis que tu sais comment marquer, mais tu vas savoir comment avoir ces lancers-là aussi. Donc, c'est pas des... il y en a, oui, qui étaient peut-être mal appelés, puis on lui mettait qu'on on lui donnait parce que c'était James Harden puis qu'il est reconnu pour se faire fauter, mais il y en a des fois qu'il y avait beaucoup de flopping. Par contre, le jeu de James Harden était tellement indéfendable qu'il mérite amplement une deuxième nomination là, pour cette année là, pour le candidat MVP. Donc, pronostic, on en a déjà débattu il y a quelques mois de ça. Peut-être que nos opinions ont changé, qui sait. Donc, je vais te laisser la parole pour le Kia NBA Most Valuable Player.
Ouais, c'est une discussion qu'on a eue entre Giannis et Harden pour le MVP l'année qui nous a donné l'idée de commencer un podcast.
Ouais. Sans offense à Paul George, je pense que Paul George est là pour faire bonne figure, mais le combat se fait vraiment entre Harden et Giannis.
Moi, je vais y aller juste d'une statistique. La statistique, c'est le nombre de joueurs qui ont fait 50 points et plus cette saison. Il y en a eu à peu près 11-12. James Harden a fait plus de matchs de 50 points et plus que le nombre de joueurs qui ont fait des 50 points cette saison. Complètement inarrêtable pendant 3 mois de la saison. Il y a eu un ajustement en fin de saison qui était un petit peu plus... les équipes se sont ajustées un peu. On a eu le retour de Chris Paul, donc on a eu un peu plus de variété offensive. C'est sûr, on en a parlé tantôt, là, les gens qui trouvent qu'il y a trop de fautes provoquées, il fait beaucoup d'iso, mais James Harden, quand il est à son maximum de lucidité offensive, qui prend les 3 points au bon moment, qui fait les bons step back, qui fait les bonnes passes à Capella, il y a eu tellement des belles actions avec Clint Capella cette saison. Quand il s'implique défensivement et qu'il est intelligent dans ses tirs, James Harden, c'est le meilleur joueur offensif de la ligue. Donc, il est mon choix.
Donc, il reste ton choix pour cette année. Tandis que moi, je vais rester également avec mon choix. Donc, Giannis Antetokounmpo, qui devrait vraisemblablement gagner le MVP. Là, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Il y a une partie de nous qui veut que les deux le gagnent. La raison est simple, c'est que la dominance de Giannis des deux côtés du terrain est complètement folle. Et le fait qu'il joue moins de minutes que les autres aussi joue en sa faveur. Par contre, avec James Harden, on a vraiment assisté à quelque chose d'historique cette année. Puis ce qui est en défaveur de James Harden, c'est qu'il a gagné l'année dernière. Donc, est-ce que ça, les votants vont vouloir opter pour avoir un autre gagnant du trophée MVP? Peut-être. Sauf que moi, il faut que j'y aille quand même. Si j'en ai un à choisir, il faut que je tranche. Il faut que ce soit Giannis. Le nombre de highlights qu'on a vu de Giannis, le nombre de fois que Giannis, les deux côtés du terrain, étaient impactants. James Harden était super bon dans les steals. Ça, je vais lui donner cette année. Je pense qu'il a fini dans le top 3. Sauf que Giannis Antetokounmpo défend sur tous les postes et vraiment le grand meneur de cette équipe-là des Bucks a changé versus l'année dernière. Par contre, James Harden a réussi à tenir son équipe dans le coup après un début de saison là, un peu en dents de scie. Réussi à garder son équipe dans la bonne voie avec les blessures de Chris Paul et tout. Donc, réussi à être une équipe compétitive, rester en haut de peloton. C'est vraiment difficile, mais comme par un slight edge, là, comme on dit en bon français, je vais falloir que je le donne à monsieur Giannis Antetokounmpo. Donc, on a fait nos pronostics, on va voir si on a raison. Donc, par contre, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les NBA Awards vont avoir lieu le 24 juin. D'après moi, ça doit être sur les ondes de TNT là, ou quelque chose du genre. Là, c'est souvent vers les 8-9 heures. Donc, vous pourrez regarder tout ça en direct sur les ondes de TNT. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre Facebook, notre Instagram au Double Dribble Podcast. Écrivez-nous si vous avez des questions, commentaires ou quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir. Et sinon, on se retrouve pour un prochain épisode.